Salut Marc-André Houle.
Salut Catherine.
Salut, comment tu vas?
Ça va très bien, merci.
Ah, salut
Pierre-Michel.
Salut.
Ah, content que tu sois avec nous encore, bien sûr, cette semaine. Il y a quelque chose qu'on entend, en tout cas moi, que j'ai entendu souvent, Pierre-Michel, peut-être la même chose, des gens parfois qui se questionnent, qui ont peur de faire faillite, un, et qui se disent « Hey, si je fais faillite, c'est terminé. Un, je perds ma maison, je serai plus capable d'avoir un prêt hypothécaire, c'est terminé. » Il y a plusieurs croyances ou fausses croyances, Marc-André.
C'est un des plus gros mythes qui entoure la faillite. Bon. Là, c'est ça, c'est « je vais perdre ma maison, je vais perdre mon véhicule
okay. »,
ce qui est à peu près 99 % du temps, pas le cas.
Ah non, t'es-tu sérieux?
Absolument, absolument.
Okay, mais moi, je vais être honnête, je pensais que beaucoup de monde, en faisant faillite, perdait tout ça. Je suis honnête avec toi, là.
Non, on va avoir des remises volontaires, parfois de véhicules, pour alléger le budget.
Ouais,
mais c'est
ça.
Toute une question de...
Ou deux voitures, la deuxième voiture, elle va passer dedans, la faillite, par exemple.
Exact, exact. Okay. Mais habituellement, on va pouvoir procéder à un rachat d'un véhicule. Il va y avoir des façons de gérer ça, qu'il n'y aura pas... Si on veut conserver nos actifs, habituellement, on va être en mesure de le faire.
Mais la maison?
La maison.
Ouais.
Il y a une technicalité là-dedans, par exemple, au niveau de la maison, non?
Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr.
C'est dépendamment de la valeur, en tout cas.
C'est une des plus grosses craintes, parce que les gens, la maison, c'est pas juste un actif financier. Là.
Non, c'est ça.
Mm-hmm. C'est l'ancrage de la famille.
Mais oui, bien sûr.
C'est notre bien le plus précieux. Fait que c'est évident que les gens, c'est leur plus grande crainte que de perdre ça. On est toujours en mesure d'éviter ça.
OK.
Si on a une crainte que c'est ça qui peut se passer, bien on va orienter les clients vers la proposition de consommateur ou, dans ces cas-là, il n'y a aucun risque de saisie. Là.
OK.
Mais, admettons.
Oui, vas-y, non, vas-y.
Admettons, je dois 150 000 sur ma maison.
Exact.
Elle vaut 300 ou 350 000 $. Tu supposes quoi?
Bien, c'est sûr que dans des cas comme celui-là, on va y aller avec une proposition de consommateur où est-ce qu'on va être en mesure de prendre un arrangement avec les créanciers.
Pour la différence entre les deux, c'est comment ça fonctionne?
Dans la mesure où est-ce qu'on a une grosse équité comme celle que tu parles, c'est sûr que l'entente, elle ne pourra pas être à 10 cents dans le dollar. Là.
Non, j'imagine.
On va devoir, puis c'est tout à fait correct, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir permettre à tout le moins des modalités de remboursement et de consolider toutes les dettes dans un seul versement. Donc, la proposition consommateur ne viendra pas nécessairement compromettre le montant des dettes qu'on va avoir, mais on va stopper les intérêts, puis on va tout amener à un seul versement. Donc, on va venir changer les modalités.
Et dans ce versement-là, donc, l'institution financière va avoir sa part, c'est ça?
Exact. Ils vont payer probablement à peu près 100 cents dans le dollar.
Okay.
On va les rembourser au complet, mais il n'y aura plus l'intérêt qui va venir bonifier tout ça, parce que souvent, c'est ça qui est mangé. Donc, on va venir changer les modalités du prêt, puis on va faire des remboursements au syndic qui, lui, va faire la distribution.
OK. Marc-André, actuellement, avec l'année qu'on a connue, puis l'année et demie, là, on a vu, les taux d'intérêt, tu sais, quelqu'un qui avait un prêt ouvert, puis qui n'était pas, justement, arrêté à un montant X, ça a été difficile. Est-ce que vous avez vu augmenter le nombre de personnes qui vous ont appelé pour dire « Hey, moi, là, j'arrive plus, là. Ma maison, elle me coûte beaucoup plus cher. Ça me coûte 500$ de plus par mois. J'arrive plus. » Vous devez avoir eu plusieurs téléphones là-dessus?
On a des dossiers de clients qui ont fait l'acquisition d'une résidence pendant la pandémie, pendant le boom de la pandémie, mais c'est pas encore commun.
Non? OK.
Non, pas encore commun. C'est encore très bien gérable. Puis souvent, c'est que les paiements n'ont pas augmenté. Donc, il se crée de l'équité négative. Là. Les dossiers ne sont pas encore dans nos bureaux.
OK.
Parce que les institutions financières le gèrent en permettant...
Ouais.
De diminuer l'équité sur les maisons.
OK. Je continue dans notre réflexion, parce qu'on parlait de maison. Quelqu'un qui a fait faillite, parce que tu nous dis encore récemment, ça te suit longtemps dans ton dossier de crédit d'avoir fait faillite. Alors, à partir de quel moment tu es en mesure d'obtenir un prêt hypothécaire si tu as fait... Mettons, j'ai fait faillite il y a 2 ans. Je suis capable d'avoir un prêt hypothécaire cette année?
Oui. Les craintes là, des clients, là, c'est « je vais-tu garder ma maison? »
Oui.
On a répondu...
Oui.
Même en faillite, on va être en mesure habituellement de conserver les maisons parce que faut comprendre que nous, lorsqu'on vient faire la vente, ce qu'on va proposer aux créanciers dans la compensation, c'est une vente sans garantie légale, dans un contexte de vente rapide. Donc, on va être capable de venir... Il va y avoir une certaine diminution. Là. Il y a une évaluation qu'on fait faire en valeur de liquidation qui n'est pas la pleine valeur marchande.
Okay.
Donc, on va être capable de diminuer le montant qui va être remis aux créanciers. OK? Ça, c'est
ça va.
une des autres craintes qu'on a avant de pouvoir demander, c'est est-ce que je vais pouvoir renouveler mon prêt hypothécaire? Mm-hmm. Ça, c'est une question qui nous est fréquemment demandée.
Ouais.
La réponse, c'est oui, presque tout le temps.
Ah, oui.
À peu près tout le monde, en fait, tout le monde va pouvoir renouveler leur prêt hypothécaire s'ils n'ont pas d'autres causes de défaut que la faillite ou la proposition. Fait que c'est sûr que si tu ne fais pas tes paiements hypothécaires pendant que tu es en faillite ou en proposition,
mais non, oublie ça.
Les banques ne te renouvelleront pas.
Non.
Mais si tu es à jour, au moment de ton renouvellement, les institutions financières, à 99,9 % vont renouveler le prêt.
Est-ce que le taux d'intérêt peut être différent?
Taux d'intérêt va être le taux du marché, le même taux que tous les autres consommateurs.
Ah ouais.
Ouais. OK. Est-ce que, puis je te pose la question, en fait, je t'amène ça un petit peu ailleurs, parce que, tu sais, on t'entend parler, en même temps, c'est rassurant, et d'un autre côté, ça se peut-tu que ça rende la faillite un peu, je vais pas dire banale.
Accessible?
Ouais. Comprenez ce que je veux dire? C'est comme, de toute façon, ça change rien, je vais faire faillite, puis je vais me libérer de tout ça, puis je vais recommencer à zéro. Tu comprends ce que je veux dire, Marc-André?
Je comprends très bien la réflexion.
Ouais.
Mais il n'y a personne qui rentre dans mon bureau en me disant « Comment qu'on fait ça, une faillite payable? »
Non, j'imagine, peut-être pas.
Les gens viennent parce qu'ils ont des graves problèmes financiers.
Ouais, bien sûr.
Ça leur pèse sur leurs épaules, puis on les aide à s'en sortir la tête haute, à s'en sortir avec des solutions pour passer à une autre étape.
Okay.
Maintenant, c'est pas une balade au parc.
C'est quand même sérieux. Il
y a des impacts. Que ce soit une faillite ou une proposition de consommateur, il y a des impacts importants sur le dossier de crédit. On ne le cachera pas.
Puis on en a parlé la dernière fois. Ça a de l'impact puis ça te suit longtemps quand même.
T'sais, puis une faillite, automatiquement, c'est un R9 à ton dossier de crédit.
Ouais.
Puis ton score de crédit, là, immédiatement après ta faillite, il va descendre à peu près entre 400 et 450, dépendamment des dossiers. Fait que, tu sais, avant de pouvoir redemander un prêt hypothécaire, il y a une période où est-ce qu'il faut rebâtir un dossier de crédit.
D'accord.
La proposition de consommateur, ce ne sera pas un R9, ça va être un R7, mais il va quand même avoir un impact qui va faire descendre la cote de crédit jusque vers 550, ce qui n'est pas suffisant pour redemander un prêt hypothécaire.
OK.
Prêteurs, là, de ce qu'on. Moi, je suis pas dans le prêt hypothécaire, moi, je suis pas courtier.
Il y a un minimum.
Mais ce qu'on me dit, c'est que même pour les prêts, les manuvies, ou peut-être pas les banques, là, mais des tarifs réguliers. Des prêteurs qu'on appelle B, ils vont demander au moins 615 pour un prêt. Mais tu sais, fait qu'on n'est pas à des années-lumière là, de rebâtir son crédit pour passer d'un 550 en proposition à un 600.
Mais ça peut prendre combien de temps?
Après une faillite, on parle d'à peu près 2 ans après la libération où est-ce qu'on est en mesure d'obtenir un prêt hypothécaire, un nouvel
emprunt.
Et à ce moment-là, je repose ma question de tantôt, est-ce que là, le taux d'intérêt, ça va être le même que tout le monde ou ça peut être différent?
Ça va être le taux affiché. Ça ne sera pas un prime, mais ça va être le taux affiché. Puis ça... Moi, je vous dis 2 ans, mais ça dépend de plein de facteurs.
Oui, évidemment.
Il n'y a pas juste la cote de crédit. Là,
mais ça dépend aussi. Il faut que tu sois discipliné.
Ta mise de fonds que tu es capable de mettre, ça dépend de tes revenus. Est-ce qu'ils sont stables? Est-ce qu'ils sont fixes? C'est combien tes revenus?
Exact.
Ton score de crédit va fluctuer en fonction de beaucoup de facteurs.
Ouais.
Ce qui est important, toi, quand tu as passé à travers une procédure d'insolvabilité, c'est de travailler sur ce que tu es capable de travailler, c'est-à-dire de rebâtir ta cote de crédit.
Exact. Puis ça, la dernière fois, on avait parlé. Donc, tu sais, comprendre comme faut ton crédit. On a souvent parlé de budget, Marc-André, évidemment. Puis c'est le travail que vous faites avec vos clients, donc de se rebâtir quelque chose. Mais tu as des outils aussi qui peuvent t'aider. Notamment, je pense que tu nous parlais d'une carte de crédit garantie. Il y a un compte co-o. Explique-nous, c'est quoi ces outils-là?
Nous, ce qu'on met... Je pense que ça nous distingue, là, comme syndic, au moins dans la région, mais on met beaucoup d'emphase à aider nos clients à rétablir leur cote de crédit.
Okay.
Fait qu'on passe à travers toute notre solution, puis plein de trucs qu'on aide. Puis n'y a pas beaucoup de syndics que moi, à ce que je sache, prennent le temps de regarder la cote de crédit avec les, avec les clients lors des phases de consultation.
Alors que pour vous autres, c'est hyper important.
Presque automatique.
OK, d'accord.
On demande aux clients de la sortir pour qu'on puisse la regarder, l'analyser puis travailler sur divers... sur qu'est-ce qui amène les points. Parce que la faillite est un facteur qui vient affecter la cote de crédit, mais il y a d'autres choses.
Il y a d'autres choses, exactement.
Exact.
OK. C'est quoi le compte KOHO? K-O-H-O. Qu'est-ce que c'est?
C'est un compte débit... mais qui va, où est-ce qu'on, mais qui va donner des qui va nous permettre de rebâtir la cote de crédit. Fait que l'institution va donner des avis de bons paiements. Exact. Ce qui va permettre de faire des rebâtir le crédit parce que les créanciers ont l'habitude de donner les avis de non paiement.
Oui, c'est ça, exact. Là, c'est l'inverse.
Mais eux, ils peuvent aussi faire les avis de tout est beau, tout est beau. Mais les créanciers ne le font pas tous, puis ne le font pas tous de façon automatique. Fait que cette institution-là, c'est un peu sa mission. Donc, elle aide à rebâtir le crédit. Fait que il y a des frais, ils demandent des frais
bien
pour
sûr,
ça, mais c'est marginal. Là. C'est pas des frais importants. On parle de quelques dollars par mois, puis c'est vraiment très utile. Moi, je le vois là, avec les clients qui viennent. Une fois qu'ils ont pris cette carte-là, on voit qu'après quelques mois, bien, la cote de crédit a augmenté de façon importante.
OK, quand même. OK, c'est pas banal. Puis la carte de crédit garantie, tu nous en avais glissé un mot, je pense, la dernière fois.
Plusieurs institutions la permettent, Banque TD, Capital One, mais c'est une carte où est-ce qu'on va... Même les banques traditionnelles, ils ont quelques programmes, c'est plutôt rare. Où est-ce qu'on va permettre... On va y mettre une carte de crédit, mais qui va être adossée à un dépôt de garantie qu'on va remettre, souvent entre 300 et 1000 $ donc c'est une petite carte. Mais après quelques mois d'utilisation, si l'utilisation est responsable, mais on va recréditer le dépôt. Donc, ce n'est pas une carte prépayée.
Non, c'est ça. Ce n'est pas la même chose.
Exact. Okay. La carte prépayée, elle, n'aura aucun impact sur le dossier.
OK. Alors que celle-là, oui.
Absolument.
Clairement, ça sert vraiment à te rebâtir, c'est ça, une crédibilité financière.
Tout
et de voir que tu es capable de justement d'avoir une carte de crédit et d'être responsable. C'est carrément ça. Oluot.com. Tout est là. Il y a même un dossier, je pense, il y a un article complet aussi là-dessus, hein, sur le crédit, comment...
Plusieurs articles sur notre site. On est en train de bâtir vraiment notre bibliothèque.
Ouais.
Mais plusieurs articles sur comment rebâtir son crédit, les prêts hypothécaires.
Ouais.
Tu sais, les syndics, on peut des fois aider. On connaît les institutions qui ont l'habitude de travailler avec nos clients.
Absolument.
Donc, on le fait. Puis, c'est pas parce que tu as fait faillite ou une proposition... que ton rêve d'être propriétaire immobilier est parti en fumée.
Absolument. C'est bien de le rappeler. Marc-André, merci. On se reparle dans deux semaines.
Merci.
Salut, bye-bye. Marc-André, Oluot.com. Alors, voilà, c'est assez simple. Puis tout est là-dessus. Puis c'est vrai qu'il y a plusieurs articles. Allez lire, posez vos questions. Ne vous gênez pas.